Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
Érosmose. Érotisme. Coquinerie. Sexualité. Sur Osmose Radio.
Bonjour, bonsoir, chers amis, soyez les bienvenus, mes petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, la radio où il est toujours question d'amour, pas seulement une fois dans l'année comme c'était le cas avec la Saint-Valentin récemment, non, c'est qu'il est question d'amour, d'érotisme et de sexualité au moins une fois par mois sur Osmose Radio, à l'occasion de votre émission Érosmose, en compagnie de moi-même, Stéphane, ainsi que de la plus charmante voix de la radio française, Laurence, bonjour.
Mais n'ayons pas peur des mots, la plus charmante voix de la radio française. Bonjour les petites friponnes. Je vous souhaite également la bienvenue sur l'émission d'Érosmose et je vous rappelle que si vous n'avez pas de petite amie et que vous en cherchez une, sortez couvert.
Bien que le temps soit clément, sortez couvert. Vous nous avez compris. Gros clin d'œil. Et puisqu'il était question d'amour à l'occasion de la Saint-Valentin récemment, vous n'avez pas pu échapper dans la presse, dans les magasins, etc. et sur Internet. Et bien du coup, on est allé quand même faire un petit clin d'œil dans l'émission, même si on vous en a déjà parlé et comment dans les émissions précédentes. Et du coup, on va quand même ouvrir avec un petit morceau de musique dont c'est le thème justement. Un morceau des années 60, tout de suite le Jefferson Airplane avec Somebody to Love.
When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to
question de quelqu'un à aimer dans la question dans la chanson qu'on écoutait à l'instant, pardon, moi c'est vrai que j'aurais bien aimé Grace Slicks, la chanteuse du groupe Jefferson Airplane qu'on écoutait à l'instant. Jefferson Airplane, un groupe qui était au festival de Woodstock en 1969, ce festival mythique dont on célébrait le cinquantenaire il y a un peu plus de 6 mois, en août 2019. Et d'ailleurs, tiens, on oubliait tout à l'heure, mais bonne année mes petits fripons.
Hein, puisque... Bonne et heureuse année à tout le monde, à tous les auditeurs, au monde entier, avec des exceptions quand même. Je ne mets pas dans mes vœux un certain nombre de personnes.
Ah ouais, carrément quoi. T'es...
Poutine.
T'es sélectif comme ça. Oui, c'est vrai qu'il est, il est pas très fun avec les citoyennes de son pays à lui, c'est vrai. Et pourquoi on vous dit bonne année avec autant de retard, chers amis? Bah, c'est parce qu'on n'a pas pu vous faire d'émission le mois dernier. On avait encore la tête dans le popotin à force des abus, des fêtes, hein, n'est-ce pas, Laurence?
C'est ça.
Voilà, on a encore fait des folies de nos corps. Ah là 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 là. Et donc, ben voilà, hein, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, ben, on vous souhaite une bonne et heureuse année et on vous souhaite d'avoir passé une bonne Saint-Valentin. Pour ceux qui avaient envie de le faire, en fait.
Et qui avaient un Valentin ou une Valentine.
Voilà, et quand ils en ont, en fait, on s'est aperçu qu'en allant vous parler, en allant flâner dans les rues d'Avignon pour vous parler de tout ça, chers amis, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, même quand vous étiez en couple ou en relation libre, eh bien, du coup, vous n'étiez pas forcément très, très attiré par la Saint-Valentin. On s'en fait toute une montagne parce qu'il en est beaucoup question dans la presse, dans les magasins, sur les réseaux sociaux, etc., parce que c'est un peu un cliché, un mythe, un incontournable. Et pour autant, eh bien, vous n'êtes pas forcément si nombreux que ça à tomber dans le panneau, si tant est que vous en ayez envie. Et du coup, ben, comme on a déjà parlé il y a 2 ans dans Erosmose des aliments de l'amour, notamment, on avait fait une chronique assez rigolote sur les aliments aphrodisiaques que certains aiment à manger en particulier lors du 14 février. L'an dernier, on avait fait un parallèle assez intéressant avec la culture chinoise. On avait parlé de la Saint-Valentin chinoise, telle qu'ils se sont réappropriés le truc là-bas, et c'est tout aussi commercial qu'ici, mais il y a des accents culturels plutôt intéressants. Et du coup, cette année, on s'est dit comment on va aborder la Saint-Valentin de façon originale dans Erosmose. Et bien, ce qu'on a fait avec Laurence, c'est qu'on est allé dans la rue d'Avignon avec un enregistreur et on allait vous demander à vous, chers amis, ce que vous en pensiez, comment vous aviez passé ça, si vous aviez des anecdotes rigolotes ou tristes, enfin bref. Du coup, on est allé vous poser la question. On a interviewé pas mal de gens différents, et puis vous avez eu des réflexions assez intéressantes, voire parfois assez croquignolesques. Et du coup, je vous propose d'écouter ça tous ensemble. On écoute ces interviews que nous avons faites il y a 2 jours, mercredi. On était combien ? On était le 19 ?
Mercredi 19
février. Et du coup, voilà vos réponses. Et on écoute ça et on se retrouve tout à l'heure. On se demandait, puisque c'est la Saint-Valentin la semaine dernière, quelle était votre meilleure anecdote dans votre courte existence, si je peux me permettre, jusqu'à présent, votre meilleure anecdote de Saint-Valentin ?
De Saint-Valentin ? Aucune idée. Non, je sais. Ah oui, c'était. Ah oui, elle s'appelle Sarah. Alors, en gros, elle m'avait demandé de lui offrir des chocolats pour la Saint-Valentin. Au final, je lui ai justement offert des pains au chocolat. Non, des pains au chocolat. Mon premier pain au chocolat, elle me l'avait demandé. Et elle m'avait même pas dit merci.
La garce. Mais les gens sont mal élevés de nos jours.
Effectivement, ils sont très méchants.
J'allais dire votre meilleure anecdote de Saint-Valentin et ensuite la pire, mais en fait c'est peut-être la même, non ?
Oui, c'est la pire et la meilleure, effectivement. C'est la même.
Bah écoutez, je vous en souhaite beaucoup d'autres à l'avenir. Et vous, jeune homme ? Non, ok, j'insiste pas.
Et vous, les filles ? Une. Ah, ben voilà, allez.
Mais moi, c'est pas une. Enfin, c'est une anecdote, c'est pas un cadeau. Mais en fait, je me suis fait quitter 2 jours après.
Comme ça ?
Ah, c'est quoi ? Ça s'est passé comment ?
C'est dû à une infidélité.
Ah oui. Non, là, il y a trahison. Très mauvais souvenir.
C'est ça.
Les hommes, c'est vraiment tous des connards.
Ouais. On se demandait quelle est votre meilleure, on va commencer par le meilleur, anecdote à propos de la Saint-Valentin. Le meilleur cadeau qu'on vous ait fait, la situation la plus cocasse dans laquelle vous vous êtes trouvé, par exemple.
Alors, le meilleur cadeau, je dirais un très beau week-end en amoureux. Le plus cocasse, une fleur. Pour moi, c'est pas très intéressant. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire.
Où était ce, c'est pas trop indiscret, où était ce joli voyage en amoureux ?
Alors, c'était en Andalousie. Donc, c'était déjà bien agréable, très romantique.
Et cette fleur que vous trouvez cocasse ?
Ben, c'était une fleur en plastique, donc voilà, je trouve ça assez cocasse quand même. Hein, voilà, surtout pour une Saint-Valentin.
Did you think about it?
It's complicated. I don't remember. It's, sometimes it's regular day, sometimes... I think the worst, I was in the primary school. And... I received a bottle of Coca-Cola from my friend and artificial flower, like he prepared it. So it was like messy. No. So
and your best?
Last one. But it's a secret.
Come on.
No, it's a secret.
She said it was secret.
So it's a secret, yes. But it was the best one, yes.
Okay, we trust you. Thank you anyway. Par exemple, une anecdote cocasse, un joli cadeau ou un cadeau pourri qu'on vous a fait, ce genre de choses.
Non, en fait, on ne fait pas la Saint-Valentin.
Mais ça n'empêche pas d'avoir eu des rendez-vous en amoureux ou des souvenirs comme ça.
Non, franchement, peut-être Mathilde, mais moi, personnellement, oui. S'il y a eu des fois où on est allé manger au restaurant, un petit truc comme ça, puis on s'est trouvé tellement dans un cadre commercial qu'on a arrêté. On a dit, ben nous, la Saint-Valentin, on le fera la veille ou le lendemain, mais plus le jour même. Voilà, mais j'ai pas d'anecdote particulièrement ni cocasse, ni désolante, ni.
Vous faites des cadeaux toute l'année?
Pas toute l'année, mais à certaines occasions, et pas forcément celle-ci. Voilà, j'ai pas plus à vous dire à ce sujet.
Mais le dégoût de l'anecdote commerciale, c'est vrai que vous n'êtes pas la première à nous en parler de toute façon. Et vous, de votre côté?
Ben, nous, pareil, du coup, on ne fête pas la Saint-Valentin non plus. Est-ce que c'est... voilà, c'est ça. Mais non, on ne fait rien. Non. Et pareil, toute l'année, on se fait des petits cadeaux, donc il n'y a pas de... Non plus. Non, c'est ça. On n'attend pas d'occasion particulière. Ça ne me vient même pas à l'esprit. On n'a jamais... On l'a jamais fait. Voilà, un bouquet de fleurs, une surprise en arrivant, un bouquet de fleurs, mais pas plus. Pas plus que ça.
Bonjour, je suis médecin anglais et je suis ici en vacances avec mon amie. Elle habite à Paris et pour Saint-Valentin, c'était une très bonne expérience car on était seuls pour environ la première fois. Nous avons un bon appartement à Paris avec une vue du Tour Eiffel. C'était merveilleuse, mais la semaine avant ça, j'ai dû travailler beaucoup, j'ai fait des courses, des séances, etc., de travail à mon cabinet, et puis enfin j'ai pu partir, et je me sens quand je suis arrivé là-bas, que c'était comme un, je ne sais pas le mot exactement en français, c'est comme un petit nid pour nous deux, et je me suis senti très sauf, très relaxé, avec quelque chose de sécurité autour de moi. Pardon, je suis désolé, mon français n'est pas si bon.
Votre français est magnifique.
Oh, merci. De rien. Non, eh bien, it's not that good, really. Mais
it's very good, really.
Okay, thank you. Bon, eh bien, c'est tout pour nous. C'est un très bon Saint-Valentin. Peut-être le meilleur des derniers 10 ans, je crois. Mais c'est notre premier quelques mois ensemble.
Ben, on vous en souhaite de longs encore. Bravo, c'était une très belle anecdote. Merci beaucoup.
On n'est plus ensemble, on se retrouve depuis 2 ans qu'on ne s'est pas vu.
Ah, d'accord. Alors, en fait, l'anecdote que vous aviez à nous raconter à ce sujet,
on était en lendemain de soirée, du coup, on a fait soirée le 13 et le 14, on se retrouve plus que tous les deux, tout le monde était parti. Et du coup, on se retrouve devant tous ces films-là d'amour, quoi. Et voilà, forcément, ça a marché, quoi. Et voilà, du coup, on s'est embrassé ce soir-là. Et ça continue 4 ans et demi derrière.
4 ans et demi, c'est quand même tout à fait honorable.
C'est
comme...
assez particulier, quoi. Du coup, on ne peut pas la rater, quoi. C'est sympa.
Et votre version des fêtes à vous?
Alors, ma version des fêtes, c'est... Donc, il y avait une soirée le 13, et c'est que la journée du 14, on avait passé toute la journée assis, sans boire, sans se lever pour aller aux toilettes, à tchatcher. Et que le soir, on s'est retrouvés, du coup, sur ce canapé, mais auquel on n'avait pas bougé de la journée, avec, justement, je crois que c'était Love Actuality, ou je ne sais plus c'était quel film, cucu... Et donc voilà, avec une belle tension qui montait parce qu'on avait quand même passé plus de 12 heures à discuter et avec le petit bisou tout timide à la fin, on avait quand même dormi dans des chambres séparées à l'ancienne, quoi. On avait fait ça à l'ancienne, ouais. Et c'est un très bon souvenir.
Et donc, vous êtes sortis ensemble pendant quelques années, 4 ans, si j'ai bien compris. Et vous êtes restés en bon terme, apparemment.
Bah ouais, ouais. Enfin, sur la fin, non, forcément. Mais bon, on a quand même pas mal de complicité. Du coup, ouais, on n'a pas envie de perdre ça non plus, quoi.
Et vous avez bien raison, à mon avis. En tout cas, vous faites plaisir à voir, si je peux me permettre, même si vous n'êtes plus ensemble.
On va interviewer Natalia Lili-Brignoni, qui est déjà connue des auditeurs d'Osmose et qui anime son émission elle-même. Un soir, un auteur, c'est une mensuelle d'ailleurs, Natalia, c'est ça ?
C'est une mensuelle, en fait. On organise à peu près tous les un mois et demi. Le prochain événement aura lieu le 4 mars. Voilà, on reprend pour le mois de mars, la saison, enfin le semestre 2020. Voilà.
Et donc, nous, on se croise et on se dit que peut-être Natalia aurait une petite anecdote à nous raconter à propos de la Saint-Valentin, qui est mort tristement d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le thème. Anecdote, souvenir, cadeau monstrueux, cadeau magnifique, rupture, fiançailles, mariage, démolition.
Alors, non, moi, la date en elle-même... Ne m'évoque rien de bien folichon. Je sais que j'ai fait une grande rencontre dans ma vie, c'était le 11 février, donc 3 jours avant la Saint-Valentin. Mais non, ce qui m'interpelle avec la Saint-Valentin, ça m'avait frappé l'année dernière à l'autre festival, c'est qu'il y avait un jour du festival, c'était le jour de la Saint-Valentin. Voilà, et je voyais tous les couples... en face à face, en train de dîner, en regardant leur smartphone, leur téléphone portable, qui se regardaient même pas dans les yeux. Et je me disais, mais c'est absolument... C'est sidérant, parce que si on est obligé de regarder son téléphone, c'est vraiment qu'on n'a plus rien à dire à la personne qui est assise en face. Et donc, bon, moi, à la Saint-Valentin, je reste sous ma couette, et puis je fais rien, quoi, comme à Noël. Voilà, c'est... Je trouve que c'est un truc commercial qui est fait pour vendre des cœurs rouges et puis des... Tant mieux si ça fait travailler les fleuristes, mais à part ça, voilà. Moi, je suis une anti-fête officielle, c'est tout.
Merci beaucoup. Alors, sur ma droite, Alain.
Oui, bonjour.
Vous connaît aussi, Alain, sur Osmose Radio, mais est-ce qu'on vous présente ou est-ce qu'on vous laisse vous présenter tout seul ?
Comme vous voulez. Moi, je m'appelle Alain Ferré et donc je suis plasticien et donc je fais de la peinture et j'ai fait aussi du spectacle. Voilà. Et pour moi, la Saint-Valentin, alors c'est plutôt l'attente. Et moi, je me demande s'il y a des personnes, je veux bien refêter la Saint-Valentin avec une petite nana. Il n'y a aucun souci à partir du moment où elle est disposée. Bon, on fait un resto, puis après on rentre à la maison, quoi, discrètement. Et parce que pour moi, Saint-Valentin, il faut aussi en profiter. Si c'est simplement pour regarder son smartphone et puis discuter comme ça, non. Non, la Saint-Valentin, ça doit être, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est aussi un petit... Par exemple, bouquiner avant de dormir, un petit Georges Bataille, ou regarder des petits tableaux, des esquisses de Picasso. Voilà, et puis bon, après, pour terminer, un bon Kama Sutra, je pense que ça peut être qu'engageant, quoi, voilà. Mais savoir parler aux femmes, c'est avant tout aussi les emmener à Venise de temps en temps. Je pense que le fait de rêver, ça peut être bien aussi. Et pourquoi pas en dehors de la Saint-Valentin, mais pourquoi pas aussi le jour de la Saint-Valentin.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Alain.
De rien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup en tous les cas. Et à très bientôt. On retrouve Alain au cloître prochainement, non ?
Non. Là, je suis en expo chez Prévost, le restaurant qui est à Cavaillon. Et là, j'expose des body painting. Et d'ailleurs, je cherche des modèles. Et c'est une expo qui a lieu sur des tableaux, enfin d'après des tableaux de maîtres, et je remets tout ça en œuvre. Par exemple, j'ai fait la Seine, j'ai reproduit des tableaux de Picasso, par exemple La femme qui pleure, et donc ça remet ça renouvelle un petit peu ces tableaux tout en gardant l'esprit qui est absolument fabuleux de l'original. Voilà.
Et Natalia, le mois prochain, donc la date exacte ?
Alors la date exacte, c'est le mercredi 4 mars à la maison d'hôte bien connue au cœur d'Avignon, maison d'hôte Bar à Vin. Et on va inviter un auteur d'Aix qui est Alessandra Blache. On va parler de la PMA. c'est enfin le couple, l'amour et aussi le ben, la PMA face au défi de la le désir d'enfant face au défi de la science et des lois de la bioéthique. Voilà.
Et ben merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt et de retour sur Osmose Radio, chers amis, avec ces quelques petites interviews de gens très différents qu'on a croisés dans les rues piétonnes d'Avignon à l'occasion donc, de la Saint-Valentin. On avait envie de poser quelques questions et on a eu des retours qui parfois m'ont étonné. Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, chers collègues,
c'est vrai.
Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément les réponses auxquelles on s'attendait.
Non, on s'est même posé des questions d'ordre sociologique. Est-ce que la Saint-Valentin est un phénomène social, entre guillemets ? Parce qu'on nous a souvent dit et répété que c'était un phénomène commercial, ce qu'on ne peut pas éviter, ça l'est. Et on se demandait quelle tranche de population fêtait encore, avait à cœur de fêter la Saint-Valentin. On n'a pas encore la réponse, mais on se demande si ce n'est pas quand même les plus jeunes.
Bah, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit que dans la mesure où la Saint-Valentin avait sans doute des racines très anciennes et plutôt mignonnes, et c'est une célébration qui reste cuculapréline, certes, mais toujours un peu romantique. Moi, j'y suis attaché de toute façon. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier l'aspect éminemment commercial et de pire en pire, parfois, j'ai l'impression. Vous connaissez ce slogan qui fait florès sur Internet, qui est un peu une réaction à cet état de fait. Faites l'amour, ne faites pas les magasins.
C'est ça.
Voilà. Eh bien, à mon avis, ce serait un leitmotiv qu'on devrait se répéter chaque année et pas seulement pour la Saint-Valentin. Et du coup, moi aussi, je me suis dit, les plus jeunes étant les plus perméables à la propagande du système du mercantilisme et du système consumériste, peut-être que ce seront eux qui seront le plus intéressés par défaut par la Saint-Valentin. Et finalement, bah, ce n'était pas forcément le cas puisque les petits gamins avec lesquels on a discuté, enfin les jeunes gens avec lesquels on a discuté, eux avaient des anecdotes sur le sujet, mais on n'avait pas eu le sentiment que ça leur tenait tant à cœur
c'est
que ça.
C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc,
l'amour leur tient à cœur parce que c'est une période de la
c'est
vie.
C'est une grande aventure.
Où effectivement, on a besoin de se reconnaître dans les yeux des autres. Hein. Les réseaux sociaux sont particulièrement importants pour les plus jeunes, justement pas à cause de ça. Mais c'était pas forcément la Saint-Valentin qui les fascinait le plus. Et donc ça, je reconnais que ça m'a surpris. Et parmi les gens plus âgés aussi, on a eu pas mal de gens qui avaient renoncé à la fêter, qu'ils aient été en couple ou pas, qu'ils acceptaient de nous répondre ou non. Il y a eu des gens qui n'avaient rien à dire sur le sujet parce que ça ne les intéressait pas, tout simplement.
Tout à fait. Pour continuer l'enquête, je tiens à préciser que j'ai des collègues qui fêtent la Saint-Valentin traditionnellement parce qu'elles ne l'évitent pas. Certaines mettent une bougie sur la table et ma voisine dans ma rue, qui est une dame âgée avec son compagnon âgé, m'a dit que pour la Saint-Valentin, elle mijotait le petit plat préféré de son mari.
Eh ben voilà, c'est une preuve d'amour.
C'est une preuve d'amour.
Et puisqu'il faut une date, alors la chandelle sur la table de nuit, bon la chandeleur c'est un petit peu après. Faire des crêpes pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, on fait d'une pierre deux coups, hein, après tout.
Oui, mais attention à ne pas brûler les draps, néanmoins.
Et à ne pas retourner votre conjoint comme une crêpe, hein, ça ne se fait pas.
Ça si, vous pouvez changer de position.
Et donc, toujours est-il que voilà, on a eu des réactions qui, moi, m'ont réellement surpris. Je pensais que la Saint-Valentin était, malgré tous ces aspects un petit peu négatifs, le consumérisme, le mercantilisme et l'aspect commercial, restait quelque chose de populaire. Et finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Est-ce un mal, est-ce un bien ? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un fait et je l'ai appris grâce à vous, cher petit fripon.
Merci à vous. Alors, juste pour terminer quand même, moi, j'aime beaucoup l'anecdote de la dame qui reçoit une fleur en plastique. Messieurs, quand même, soyez un petit peu originaux. Si vraiment vous devez n'offrir qu'une seule fleur, évitez le plastique.
Et cette dame-là était accompagnée.
C'est meilleur pour la planète.
C'est vrai que bon, c'était un peu couillon comme anecdote, la pauvre. Mais ça, on a mis anglaise qui nous a répondu en anglais. D'ailleurs, désolé, mais on n'avait vraiment pas le temps de vous faire un doublage pour l'émission. Mais vous aurez peut-être compris que cette dame-là, toute timide, qui n'a pas voulu nous raconter sa meilleure anecdote qu'il a gardée pour elle, mais ça, c'est sa vie privée, ça se respecte. Mais elle nous a raconté que un de ses amoureux lui avait donné une fleur artificielle, mais qu'il avait fabriquée lui-même. Donc, un genre de fleurs
c'est
en papier,
différent.
Oui, quelque chose comme ça. Donc c'était aussi un joli cadeau, malgré tout, même si c'était pas une rose qui venait de chez le fleuriste. Voilà. Et du coup, on a eu toutes ces anecdotes-là. On vous laisse en juger de leur pertinence ou de leur validité, chers amis. Mais à mon avis, elles vous auront plu comme à nous. Et aussi, il y avait Alain Ferré à l'instant qui disait que aimer une femme, c'est aussi l'emmener à Venise quand on a les moyens, bien entendu. Hein. On peut aussi l'emmener au 7e ciel. Ça demande un peu plus, ça demande autant d'investissement, mais pas forcément forcément un investissement financier. Donc du coup, vous pouvez aussi faire ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre le soir du 14 février pour vous y consacrer, cher petit fripon. Voilà. Et donc, la Saint-Valentin a un aspect un petit peu ringard, de fait. C'est ce qu'on peut déduire des réponses qu'on a entendues lors de cette interview. Et du coup, il y a aussi un aspect important, c'est que la Saint-Valentin, parfois, c'est aussi le fait de s'apercevoir un peu tristement qu'on n'a pas forcément grand-chose à se dire. Et on a cité, pour certains couples, hein, je précise, et certains ont cité le fait qu'il y avait des gens qui restaient sur leur portable pendant qu'ils étaient ensemble au restaurant. Et le portable, c'est à la fois un bienfait, une malédiction, ça dépend ce qu'on en fait. Et les réseaux sociaux, les sites de dating, etc., de rencontres, etc., sont un petit peu jamais que des outils qui peuvent devenir un enfer ou un paradis, tout dépend de ce qu'on en fait. Et par conséquent, eh bien, il y a sans doute des tas de gens qui se rencontrent via Internet et qui finissent par être très heureux. Et puis il y a aussi des tas de gens qui rencontrent quelqu'un sur Internet ou non et qui finissent par s'embêter avec et qui fuient la relation en allant sur leur smartphone, sur les réseaux sociaux, etc. Bref, ça, c'est à vous d'en décider. Après vous, c'est vous qui maîtrisez ces outils. J'espère que ce n'est pas eux qui vous manipulent. Toujours est-il que moi, tout ça m'a rappelé l'amour sur Internet, etc. M'a rappelé un texte que j'avais lu il y a quelques années, en 2006 pour être plus précis. Alors, il n'y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux à l'époque, mais il y avait déjà les sites de rencontres. Et il y avait un garçon qui s'appelait, dont le pseudo était Winston Smith, qui avait un blog qui s'appelait Sodacid, qui a disparu depuis, et dans lequel il racontait des anecdotes réelles ou fantasmées, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il écrivait des textes qui souvent avaient une tristesse un peu olé olé. On sentait une mélancolie, une sexualité crue sur laquelle perçait une certaine mélancolie. Et je me souviens d'un texte qui collera parfaitement pour ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, à savoir l'amour et les réseaux sociaux. Donc je vous lis ça tout de suite. Entre mes jambes, la tête de la fille opère un lent va-et-vient, de haut en bas, en suivant l'axe de ma queue. Je lui caresse les cheveux en regardant autour de moi, et mes réflexions concernant la manière dont elle a aménagé son appartement sont accompagnées de vagues bruits de succion. Elle me tripote les couilles de temps en temps, sans doute lorsqu'elle sent que mon intention s'en va loin, très loin de son canapé en nubuck rouge. C'est pas qu'elle suce mal, loin de là. C'est juste que j'ai l'esprit un peu encombré ces derniers temps. Non, je dirais même qu'elle suce très bien d'ailleurs. Elle est en quelque sorte l'archétype de la fille qui suce depuis qu'elle est adolescente et qui ne sait faire quasiment que ça parce qu'on ne lui a jamais demandé de faire autre chose. Pas particulièrement jolie, un visage quelconque, des cheveux filasse et sans éclat, des petits yeux bleus enfoncés très profonds, pas de maquillage, un corps bien fait mais qu'on devine pourtant ingrat, exigeant, une surveillance de tous les instants et condamnant par avance tout laisser-aller. En passant dans la cuisine, j'ai ouvert les placards, pas un seul pot de Nutella ou assimilé, pas de biscuits, pas de soda au frigo, pas de glace au congélateur, que des fruits, des légumes, des soupes et des gâteaux de régime. Tristement classique. Cette fille, je l'imagine très bien au lycée. Peu ou pas beaucoup d'amis, en tout cas pas des vrais. Un physique qui n'a rien d'exceptionnel, des goûts vestimentaires banals, une intelligence supérieure qui s'éclipse derrière un manque de confiance en soi, des besoins sexuels émergents et rien d'autre que des petits connards en rut en train de renifler son cul. Elle n'a pas besoin de m'en parler, tout ça je le sais déjà. La solitude qui ronge, le doute qui s'installe, les déceptions qui s'accumulent, coucher pour coucher en espérant quand même une vraie histoire. Une vague tendance suicidaire de l'ordre du fantasme, un peu trop d'aigreur par moments, du désespoir par d'autres, et ainsi de suite. Son histoire n'a rien d'original. Les mecs avec qui elle devait sortir lui demandaient de sucer, alors elle le faisait, sans trop d'enthousiasme, j'imagine. Après le lycée, la fac est toujours les mêmes connards. Pareil pour la vie active quelques années plus tard. On le dit souvent, mais les filles grandissent plus vite que les garçons. Une bonne partie d'entre eux passeront toute leur vie sur leurs 15 ans, qu'ils portent une paire de Nike au pied ou une cravate autour du cou, ils resteront globalement les mêmes. À présent, elle a sa situation, un bon travail et son petit confort matériel, mais elle sait qu'il lui manque encore et toujours l'essentiel. Elle a dû finir par se résigner à l'obtenir, tombant systématiquement sur les mêmes connards et reproduisant sans arrêt le même schéma, celui qui lui a probablement fait conclure que dans la vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut et qu'il vaut mieux faire avec. Les pulsions, les envies et le désir, ça s'explique pas. Ça creuse juste des trous qu'on essaye de combler tant bien que mal. Alors, au bout du compte, elle est toujours là et maintenant elle suce sans poser de questions et sans qu'on lui demande quoi que ce soit parce qu'elle sait que c'est ce qu'on attend d'elle. Pratique. C'est pas moi qui vais m'en plaindre après tout. Il y a beaucoup de sortes de personnes différentes, mais dans l'absolu, on peut toujours les ramener à deux catégories qui s'opposent. Les pauvres et les riches, les cons et les pas cons, les doués et les pas doués, les baiseurs et les baisés. Ici, en l'occurrence, je dirais que cette fille fait partie des baisés. Moi aussi, d'ailleurs. Mais même au sein des baisés, il existe une hiérarchie. Des scientifiques ont fait des expériences avec des rats. Ils en mettent 6 dans une cage et regardent de quelle manière ils s'organisent. Ils constatent que 2 rats dominants émergent systématiquement du groupe et font chier les autres, leur volant leur nourriture en leur collant régulièrement des peignées. Les scientifiques ont alors eu l'idée de tenter l'expérience avec 3 cages de 6 rats chacune, et puis d'en faire une dernière avec les 6 rats dominants issus des dites cages. Les cicaïdes se foutent sur la gueule un moment, et puis très vite, il y en a 2 qui prennent le pouvoir. Les autres sont soit des faibles qui se font exploiter, soit des neutres qui résistent aux forts et arrivent à se démerder tout seuls. En reproduisant l'expérience avec les 6 rats les plus faibles, on obtient encore une fois la même configuration. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des baiseurs et des baisés, parce que c'est dans l'ordre des choses. Il faut croire que la nature n'aime pas l'égalité et qu'on est tous des rats. Entre cette fille et moi, un rapport de force du même type s'est instauré. On s'est mutuellement reconnus en tant que baisers. On a discuté de choses légères pendant un petit quart d'heure. On a apparemment décidé que je serais le baiseur et on est allé chez elle. Quelque part, j'aimais bien sa conversation, concise et dense à la fois, l'essentiel en quelques mots bien choisis, une intelligence habilement et sciemment dissimulée, une aptitude bien rodée à rester saine d'esprit lui permettant certainement de survivre sans trop de remords. Mais à présent, ça doit faire trop longtemps qu'elle n'est plus habituée à parler d'elle, et encore moins d'être écoutée. Mes questions semblait la déranger. Elle me regardait en fronçant les sourcils, comme si je disais des choses totalement incongrues et déplacées, comme si je lui demandais de dire des mots qu'elle a fini par oublier à force de ne jamais les prononcer. J'ai pris ça pour de la résignation, et j'ai trouvé ça dommage, très dommage. Je pense qu'elle aussi, du coup, alors pour ne pas avoir à y songer, et puis pour me faire fermer ma gueule, elle m'a baissé mon froc, m'a poussé dans son canapé, et a commencé à me sucer. Maintenant, j'en suis là, avec ses lèvres serrées autour de ma bite, sa langue et ses dents qui viennent par un instant me titiller le gland, ses mains qui me caressent les couilles, et c'est plutôt agréable, et la dernière chose à laquelle je pense avant d'éjaculer longuement dans sa bouche, c'est que les baiseurs ne sont pas toujours ce qu'on croit, et qu'il y a certaines victoires qu'on est les seuls à savoir qu'on a remportées. Alors je décide de lui rendre l'appareil, non pas par principe, mais juste parce que j'en ai envie, et aussi parce que j'aime bien perdre face à plus fort que moi. De temps en temps, il faut savoir regarder la vérité en face. Elle relève la tête, et elle me sourit. Je lui dis qu'elle est belle. Et pour une fois, je le pense réellement. Voilà. Cette prose m'avait pas mal impressionné quand je l'avais vue la première fois.
C'est à la fois. C'est hyper touchant aussi. Hein.
C'est cru. Et en même temps, c'est vrai que c'était assez touchant.
Très touchant.
Ce garçon.
Au-delà de la crudité des propos, on a une émission qui s'appelle Erosmose. On n'a pas peur de grand-chose. Puis on rappelle que la littérature érotique, c'est de la littérature érotique. Ce n'est pas pornographique, c'est érotique. Donc on s'attend aussi à lire ce que tu viens de lire. Très bien d'ailleurs.
Voilà, et toi de ton côté, tu nous as déjà ramené des références.
Quelques petits morceaux choisis, exprès en pensant à notre technicien préféré, Nordine.
Et voilà, donc ce garçon avait un talent de plume, mais il a fermé son blog et je ne sais pas trop ce qu'il devient. Donc Soda Acid, Winston Smith, si tu m'écoutes, reprends contact à mon avis et continue à écrire parce qu'à mon avis tu as du talent. Voilà, chers amis.
Oui, oui, vas-y, continue à écrire.
Et donc voilà ce qu'il en est de l'amour contemporain dans sa tristesse parfois et aussi dans les conclusions qu'on peut en tirer. Et en même temps, je ne veux absolument pas être passéiste, j'ai horreur des gens qui font ça. Je veux pas dire que c'était mieux avant, qu'on respectait les femmes, etc. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de féminicides, mais qu'il y en avait encore plus, et on en parlait moins à l'époque de nos grand-mères et de nos arrière-grand-mères. Donc je veux certainement pas dire que c'était mieux avant. Néanmoins, c'est vrai que les femmes étant plus soumises, les choses avaient l'air plus simples rétrospectivement, mais je pense pas qu'on était plus heureux. Et par conséquent, je vais certainement pas dire que c'était mieux avant, et pourtant, c'est vrai que quand on regarde l'histoire lointaine, on peut s'empêcher de se dire que l'art avait quand même une certaine classe dans les siècles passés, notamment au Moyen-Âge, avec l'époque de l'amour courtois et des troubadours du Moyen-Âge. Et par conséquent, ça me rappelle un groupe allemand qui s'appelle Kuntal et qui a repris des textes des troubadours, justement des textes d'amour du XIIIe siècle et du XIVe siècle, que ce soit en allemand, donc la langue de chez eux, ou en vieux français. Ils reprennent ces textes, et souvent des textes anonymes d'ailleurs, de troubadours dont l'histoire n'a pas gardé la trace. Et je vous propose d'en écouter un tout de suite avec le titre « Amorous désir ». Thank you. Un extrait de l'album Translucida qui était sorti en 2008, je crois, Kuntal, un groupe allemand électro-médiéval qui va parfois chercher l'inspiration dans les textes des troubadours du Moyen-Âge, les textes d'amour, ce qu'on appelait le fine amor dans le pays occitan, enfin dans les pays de Languedoc, au XIIIe siècle. Voilà, et c'était le titre Amorous Désir qu'on écoutait à l'instant pour conclure hein, sur la thématique de cette première partie d'émission qui était un petit peu consacrée à l'amour et à la Saint-Valentin. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, chers amis. Vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien avec Stéphane et Laurence pour Erosmose, votre émission mensuelle consacrée à l'amour, à l'érotisme et à la sexualité. Yeah. Dans une première émission avec des voix sensuelles en plus, yeah. Y compris celle de Nourdine qui refuse d'allumer son micro. Nourdine, le gentil régisseur d'Osmose. Et on vous parlait dans une première partie d'émission, disais-je, de la Saint-Valentin qui avait lieu vendredi dernier, vendredi 14 février. Dans une seconde partie d'émission, on va prendre un petit peu d'avance sur un autre événement marquant qui, lui, a lieu en mars. C'est pas la Saint-Patrick, hein, non, c'est la journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Et on va avoir l'occasion d'y repenser, bien entendu. Et on a même l'occasion d'y penser régulièrement par rapport à de tristes événements qui font l'actualité. Parce qu'en début d'année, bon là on est en février, il est un peu tard, mais c'est vrai qu'en début d'année, il est souvent d'usage de faire un peu un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et en 2019, faut admettre que l'actualité a été relativement riche pour les thèmes qui nous intéressent, notamment dans cette émission, les droits des femmes aussi et tout ce qui est sujet attenant. Par exemple, on a eu pas mal de polémiques autour des pubs et des publicités qui, par exemple, mettaient en scène des vulves ou mettaient du sang rouge pour des produits liés aux règles, en fait, des serviettes hygiéniques, tout ça. Et forcément, dans le Landerneau, ça a fait un petit scandale, ce qui est totalement ridicule. Mais bon, bref, en même temps, je rappelle que quand on essaie de vendre des préservatifs, on les déroule sur des bananes. Hein. Donc,
c'est exactement ça. C'est vraiment totalement ridicule. Tu as raison de le ressouligner.
L'actualité donc peut être un petit peu triviale comme ça au niveau des pubs et un petit peu ridicule. Parfois, hélas, elle est beaucoup plus violente et triste. Je pense notamment aux violences policières contre les femmes. Je pense à, il y a eu Geneviève Le Guay au printemps l'année dernière. Mais il y en a eu aussi pas mal d'anonymes qui se font cogner dans les manifs de Gilets jaunes ou dans les manifs contre la réforme des retraites. On pense aussi aux soldats kurdes qui se sont beaucoup et bien battus ces dernières années. Et notamment l'année dernière, quand ils ont dû, hélas, reculer face aux troupes turques. Et donc, le communalisme, qui est l'idéologie qui sous-tend la société turque, qui donne une grande part aux femmes dans la société, ce qui est quand même assez insolite au Moyen-Orient. Il y a eu la grève des femmes aussi en Suisse. Alors ça, on ne l'a pas trop appris.
Ça, c'est intéressant. Moi, je n'en ai pas entendu parler, dit.
Eh bien oui, parce que de ce côté de la frontière, on n'en a pas beaucoup parlé. Et quand on a entendu parler, on a trouvé ça assez anecdotique, alors qu'il faut savoir que depuis les années 20, ça a été une des manifs les plus importantes en Suisse. Du coup, les femmes qui en ont marre d'être payées moins, d'avoir...
Elles ont défilé.
Elles ont manifesté. Ça a été la grève des femmes pendant quelques temps. Et ça a été l'un des mouvements sociaux les plus importants de Suisse. Et ça, c'est vrai qu'en dehors des frontières helvétiques, on n'en a carrément pas entendu parler, voilà. Mais on aura l'occasion sans doute d'y revenir un petit peu plus tard. Bref, toujours est-il qu'il y a eu des tas d'anecdotes, de petites infos dans l'actualité qui ont défilé en 2019 et aussi malheureusement les féminicides qu'on décompte et dont on aimerait d'ailleurs que la somme soit largement moins importante. Et toujours est-il que voilà, tout cela arrive et tous ces faits liés à l'actualité et liés à la condition de la femme et aux droits des femmes, forcément, s'invitent un petit peu dans nos consciences et aussi dans nos questionnements. Et du coup, comme c'est bientôt la journée internationale des droits des femmes, eh bien, toi, Laurence, tu as décidé de revenir un petit peu sur cet événement en rappelant un petit peu le background, j'ai envie de dire, l'historique de ce qui nous a mené à ça.
Oui, mais c'est vrai qu'on va y revenir au mois de mars et en cherchant un petit peu l'historique de tout ça, les avancées des droits des femmes, évidemment, je suis tombée.
Le tombé personnage,
oui, je ne me suis pas fait trop mal. Mais on pense évidemment à Olympe de Gouges. Et moi, j'ai très envie de vous parler d'Olympe de Gouges. Et puis après, je vous citerai quelques dates parce que certaines sont plus importantes que d'autres. Elles sont toutes importantes quand il s'agit d'avancer des droits des femmes. Et cette petite Olympe de Gouges, à qui on doit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'était quand même un personnage intéressant. Elle s'était retrouvée veuve assez jeune, à 16 ans. Et 2 ans plus tard, elle se remet avec un compagnon qu'elle suit à Paris. Et là, elle va fréquenter certains salons littéraires et elle va s'offrir pas mal d'amants, parce qu'on est au XVIIIe siècle, dont l'écrivain François-Sébastien Mercier, je ne sais pas qui c'est, mais c'est l'auteur du Tableau de Paris. Elle va écrire des pièces de théâtre, des romans qui fleurent bon les sentiments compassionnels à la mode. Et puis, en 1785, elle publie pour le théâtre français une violente dénonciation de l'esclavage. Donc elle est quand même intéressante, cette petite Olympe. En 1788, elle récidive avec ses réflexions sur les hommes nègres qui lui valent d'être accueillis par les abolitionnistes dans la société des Amis des Noirs. C'est pas rien, on a eu une émission aussi en décembre, un petit peu là-dessus.
Les Amérindiennes, tu veux dire ? Oui, c'est vrai. Faut pas reprendre le mot nègre dans le sens contemporain. À l'époque, parler d'un nègre, c'était parler d'un noir, mais on n'était pas encore avec le concept de négritude. Et c'était pas forcément un terme raciste.
Tu fais bien de le dire. Oui, tout à fait. Mais elle est accueillie par les abolitionnistes dans la société des Amis des Noirs.
Ouais.
En 1786, elle écrit aussi une suite au mariage de Figaro de Beaumarchais, dans laquelle elle dénonce le mariage forcé des filles et plaide pour l'émancipation féminine. Et donc, cette femme, cette révolutionnaire bien en forme, quand survient la Révolution française en 1789, vous vous rappelez quand même, Olympe de Gouges, déjà quadragénaire, redouble d'activité et multiplie brochures et libellés dans lesquels elle réclame avant toute chose l'égalité des droits entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de couleur ou de revenu. Elle plaide aussi pour le droit au divorce, telle sera, ce sera avancé dans, dès le 20 septembre 1792. Ça sera comme ça. Et l'homme de Gouges, elle brave la bienséance révolutionnaire en publiant une parodie de l'auguste Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous l'intitulé « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » avec une dédicace à la reine Marie-Antoinette où l'on peut lire « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. » Et elle a quand même péri un petit peu guillotinée.
C'était un petit peu prémonitoire ce qu'elle
disait. Le 3 novembre d'ailleurs, sur l'ordre de Robespierre, elle s'était ralliée au club des Jacobins. Donc bon, on lui doit quand même pas mal de choses. Cette petite lame de Gouges a préfiguré pas mal d'avancées. Et donc, par exemple, si je vous dis qu'en 1956, on doit... Les dates, elles sont là, hein. En 1956, c'est la création de la maternité heureuse. On en a parlé dans une autre émission. Mmh. Le mouvement des femmes en faveur du contrôle des naissances, qui deviendra le mouvement français pour le planning familial en 1960. Le planning familial qui avait pour objectif l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement. L'avortement, il faudra attendre un peu plus longtemps. Je vais vous parler aussi des femmes le 26 août 1970 qui déposent une gerbe à la femme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Cette manifestation marque la naissance du mouvement de libération des femmes. Après, on en pense ce qu'on en veut, parce qu'il y a quelques fois eu des dérives, mais ceci fera partie d'une autre émission. Et le 5 avril 1971, tu n'étais pas née, Nordine, mais le Nouvel Observateur publie un manifeste signé par 343 femmes qui est devenu extrêmement célèbre, puisqu'il s'agit du manifeste des 343 salopes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités qui déclaraient avoir avorté et réclamaient l'avortement libre. Il faudra encore attendre un petit peu plus longtemps. Elles ont été défendues par Gisèle Halimi, qui lutte pour l'abrogation de la loi de 1920, qui fait de l'avortement un crime.
Et donc, le manifeste des 343, que après Charlie Hebdo avait rappelé les 343 salopes, c'était paru dans le Nouvel Obs ?
Oui, le Nouvel Obs avait, le 5 avril 1971,
d'accord.
Il avait publié aussi le Nouvel Obs.
C'est marrant que tu parles de ça, parce que Jean Daniel, justement, le fondateur, est mort il n'y a pas longtemps.
Eh bien, écoute, je confirme mes sources parce que je les ai vérifiées.
Ah oui, donc, je te fais confiance, mais moi, je ne savais pas, tu vois.
Voilà, alors bon, il y a eu d'autres dates, mais on y reviendra. Hein, je ne sais pas, on ne va pas toutes les faire.
De toute façon, tu auras l'occasion d'y revenir.
Le 13 juillet 83, la loi Roudy, Yvette, chère Yvette, qui établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, j'ai fait la liaison, pour l'égalité de salaire, c'est normalement acquis dans les textes. Et on sait pourtant qu'en réalité, ça ne l'est pas. J'ai une copine qui est ingénieure chez IBM, pour ne pas citer la marque, qui a fait les mêmes études que son confrère, les mêmes études, le même travail, mais pas le même salaire.
C'est un cas assez courant. Il faut, oui. Faut croire que le plafond de verre, pour l'appeler ainsi, donc, n'est pas, on pourrait penser que c'est plutôt dans les classes populaires qu'il y a le plus de misogynie et ce côté réactionnaire. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. On voit que dans des classes sociales plus supérieures et dans des milieux professionnels où on n'a pas plus d'école blanche que d'école bleue, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, cette misogynie et sa traduction au niveau des salaires existe bel et bien et parfois plus crasse que chez les gens les plus pauvres. Et du coup, ben voilà, ce que tu dis est assez courant. Il y a juste une nuance que je voudrais apporter. Je tiens absolument pas à justifier cet état de choses, attention. Hein. Mais c'est vrai que quand tu es patron et que tu as une employée qui doit s'absenter 5 jours par mois parce qu'elle a des règles douloureuses et qu'elle est pliée, qu'elle peut vraiment pas bosser, soit tu es un salopard et tu lui dis, bon, ben à ce moment-là, vous donnez votre démission, soit tu es assez compréhensif et puis bon, bah, tu lui donnes, tu la laisses prendre un arrêt, mais en même temps, si elle n'est pas là, tu ne peux pas la payer non plus, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des trucs liés à la condition des femmes. Il n'y a aucune misogynie dans mes propos, hein, mais c'est juste une question que je me pose. Comment je réagirais, moi, si j'étais patron, si j'avais une employée que j'aime bien, dont je tiens à garder à
cause de grâce à ses compétences, tout ça,
mais qui a des règles douloureuses. Comment je réagirais, moi, en tant que patron? Je dis absolument ça. Pas ça pour excuser les inégalités salariales. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des problématiques qui se posent quand on aborde ce sujet-là et qui sont d'autant plus importantes à mes yeux qu'il faut absolument les résoudre. Quoi.
Mais c'est bien d'en parler, ça fera aussi l'objet d'une réflexion, peut-être on pourra réfléchir. On pourra peut-être même faire un autre micro-trottoir. Tiens.
Ah, ça, c'est une bonne idée. Tiens, donc, chers amis, soyez sûrs de nous croiser un de ces quatre dans les rues d'Avignon. On viendra avec vous avec notre petit micro. Ne soyez pas effrayés si je sors un gros truc de ma poche avec le bout rose. Hein. C'est juste le micro d'Osmose Radio. Voilà.
Oui. T'as vu venir.
Non, mais je comprends que ça puisse impressionner. Et toujours est-il que, ben voilà, donc les droits des femmes, il va en être question au mois de mars. C'est un sujet qui nous tient à cœur,
oui,
évidemment.
C'est vrai, sur les disparités aussi dans le monde et les avancées qui ont été faites, où en Europe, on pourrait se penser satisfaite, il y a encore du travail, il y a eu du travail de fait, il y a encore du travail à faire. Mais dans les pays du Moyen-Orient, ce n'est pas le cas. Donc,
Si on s'arrêtait qu'au Moyen-Orient. Je ne sais pas si les Chinois sont beaucoup mieux lotis.
Non, non, les Chinois non plus. En Asie, au Moyen-Orient... Les grandes percées restent à faire.
Et donc, c'est un travail qui est toujours en cours. Si j'ose dire, rien n'est jamais acquis à l'homme, comme disait le poète. Et si c'est un sujet qui nous tient à cœur, alors qu'on est une émission consacrée plutôt à l'érotisme et à la sexualité, bah c'est pour une réalité, une vérité toute simple. C'est que les gens libres, en règle générale, et les femmes libres en particulier, bah, plus ils sont libres, mieux ils baisent, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. Des gens qui sont soumis, etc. Là, on peut chercher la soumission dans certaines tendance de la sexualité bien précise, le SM par exemple, mais à ce moment-là, c'est quelque chose de consenti. Quand c'est quelque chose de subi, j'ai du mal à admettre, enfin, je crois que je ne suis pas le seul à savoir par expérience que les gens soumis ne sont pas des bons coups. Voilà, donc plus vous êtes libres, mes chers petits fripons, eh bien, mieux vous faites des étincelles sous la couette. Voilà pourquoi on aime à vous parler aussi
mesdames,
de ce genre de sujet.
Prenez le pouvoir aussi sous la couette.
Faites comme Lilith, dont tu avais parlé il y a quelques émissions.
Voilà, mesdames, montez.
Voilà, donc vous...
Enfourchez.
des étalons, pourquoi pas. Si ça peut flatter l'orgueil de vos gars, en plus, si vous les considérez comme des étalons. Toujours est-il que voilà, pourquoi on aime vous parler aussi de droits des femmes dans Erosmose, parce que ça rejoint indirectement les sujets qui nous préoccupent dans cette émission. Voilà, chers amis. Quand je vous parlais de toutes les horreurs qu'on a entendues en 2019, il y en a beaucoup liées aux droits des femmes, comme tu le rappelais, Laurence. Il y avait aussi tout le déluge, le torrent d'injures que s'est pris Greta Thunberg, par exemple. Les violences policières, j'y reviens. Et bien justement, il y a un groupe de rock français qui s'était amusé à prendre avec humour le sujet des violences policières et de celles qui les subissent. Et c'est justement l'objet du morceau qu'on va écouter tout de suite. Donc ce groupe a un nom un petit peu incongru, ce sont les Vieilles Salopes. Et tout de suite, on écoute le morceau La Nuit avec vous.
Sur le boulevard presque sans
Comment rire de sa nuit en garde à vue avec le groupe Les Vieilles Salopes. Rien que le nom, c'est un poème déjà. Et le titre, La nuit avec vous, qu'on écoutait un instant à un groupe gentiment punk de la scène rock française des années 90, si ma mémoire est bonne. Voilà, chers amis. Et donc, bah, c'était pour faire un petit clin d'œil hein, aux violences policières que subissent tous ceux qui osent manifester ces derniers temps, notamment les femmes hein, qui ne sont pas les dernières à se prendre des coups de matraque et des humiliations. Voilà. On verra comment ça évolue en 2020. Et donc voilà, ben on a parlé un petit peu de sujets qui nous tenaient à cœur en ce mois de février, à savoir ben, les droits des femmes dont il sera question bientôt au mois de mars, à savoir la Saint-Valentin qui avait lieu la semaine dernière. Mais cette émission Erosmose ne serait pas complète sans la revue littéraire de Laurence.
Mais avec plaisir. Alors je me suis dit que quelquefois, je pensais particulièrement à Nordine, notre cher technicien, qui trouve, il lui arrive de trouver que nous n'utilisons pas suffisamment la lettre Q de l'alphabet français. Donc je me suis dit, mais qu'à cela ne tienne.
J'ai passé Quintal tout à l'heure pourtant.
Oui, mais qu'à cela ne tienne. Etienne, donc, mon petit Nordine et chers auditeurs, je vous ai fait une sélection de livres que je vous recommande pour les avoir lus et dont on a parlé aussi dans d'autres émissions. Donc, Nordine, particulièrement pour toi, mais vous les auditeurs aussi. Hein. Alors, vous pouvez par exemple lire Gamiani ou Deux nuits d'excès d'Alfred de Musset. Tu vois, c'est des grands classiques. Hein, et très joli. Hein. C'est l'histoire entre la pornographie, le drame romantique et l'auteur qui recherche la pureté. On est entre la pureté et la dépravation. C'est très intéressant, ce Gamiani. Évidemment, je te recommande chaudement Le Conte d'Irène de Louis Aragon. Alors, c'est un livre érotique, certes, mais c'est un livre un peu étrange. Je ne sais pas si tu l'as lu, Stéphane. On ne peut pas le classer dans le livre littérature érotique comme certains auteurs, comme Bataille, comme d'autres d'ailleurs. Il est un petit peu inclassable, mais c'est un très beau livre.
Ça reste de la littérature érotique, mais le prisme d'approche est un petit peu inhabituel.
Voilà, c'est ça. On est d'accord. Alors, bien sûr, j'ai envie de te parler, et à vous parler, pardon, de la fameuse Anaïs Nin, Vénus Erotica, et quand même des passages aussi dans sa correspondance avec Miller qui valait leur pesant de cacahuètes, qui faisait monter la température. Là, t'éteins les radiateurs, hein, c'est tout de suite beaucoup plus chaud. La Vénus Erotica, c'est 15 nouvelles qui sont effectivement très torrides, où Anaïs Nin explore la sexualité sans jamais tomber dans l'outrance et la vulgarité. C'est un classique de la littérature érotique, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Parce que j'avais fait ma petite liste, mais vous me connaissez. Ah ben, les 11 000 verges, bien sûr, de Guillaume Apollinaire. Il y a eu le manifeste des 343 salopes, mais avant elle, il y avait quand même Apollinaire qui écrivait des choses. Il fallait bien gagner sa vie. Hein.
Mais il paraît que sur la littérature d'Apollinaire, les avis divergent. Et divergent,
oh,
c'est énorme.
Oh, mais les avis divergent. Il y a une très jolie citation dont je voulais livrer, là. Une citation des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire. Modni Vibesca, en la saisissant, vous voyez de quoi je parle, en la saisissant, c'est aux éditions Mutine, tout ça, hein, mais on le trouve partout, hein, les 11 000 verges. Modni Vibescu, en la saisissant, avait passé les mains sous son gros cul qui semblait un beau melon qui aurait poussé au soleil de minuit tant il était blanc et plein. C'est beau, hein? Bon, ça ne va pas t'intéresser, Nordine.
Alors, souvent, on compare les crêpes de la chandeleur à la face de la lune qu'on voit dans le ciel. Eh bien là, c'est une autre comparaison. Voilà.
Mais tout à fait. Alors, pour rester peut-être plus proche, j'ai choisi de vous parler d'un auteur dont tout le monde a entendu parler. Déjà, avec un nom comme ça, c'était un peu prédestiné. C'est Frédéric Dard. Et Frédéric Dard, c'est l'auteur des San Antonio. Tout le monde connaît San Antonio.
Ah, magique.
Mais oui.
Mythique.
Alors, je me suis intéressée à une étude qui avait été faite sur ses écrits et particulièrement sur certains thèmes. Et les écrits ont été retrouvés et traités par un monsieur qui s'appelle Aymar Brackmill. Déjà, je me suis dit, ok, ça a l'air sérieux. Peut-être
j'aime
que
pas
ça...
me moquer du nom des gens, mais
pas
là,
du
des
tout,
fois...
Pas du tout, pas du tout, on n'est pas là pour ça, voyons Stéphane. Donc, il s'est intéressé à deux ouvrages de San Antonio, « Apprendre ou allécher », c'est Frédéric Dard, et « Remets ton silo, gondolier ». Et là, il explique que Frédéric Dard avait fait trois versions à propos des vacances. Alors, il y a sur les vacances de Berrurier, il avait fait trois versions. Je vais vous les livrer. Donc, la première version de Frédéric Dard, c'est « Lorsque Beru dégagea son braque géant de ses guenilles, j'assistais à la scène toujours renouvelée de l'effarement d'une femme se trouvant brusquement nez à nœud avec le chibre du siècle. La petite pute, qui se prénommait Maria Colomba, récria que malgré son expérience et le nombre incalculable de mandrins qu'elle avait encaissés dans sa malle arrière, jamais elle ne saurait héberger un obusier d'un tel diamètre. Le gros, par gestes éloquents, s'employa à la rassurer et à plaider l'extensibilité d'un frifri habitué à fonctionner. Mais l'effroi de la donzelle grimpait au fur et à mesure qu'elle palpait le gourmis du maestro. On crut que toute transaction allait s'arrêter là, quand elle démontra qu'elle pouvait emboucher une pareille trompette sans s'éclater les commissures des lèvres. La première version. Donc, la deuxième version. Lorsque Beru fit jaillir son trépas surdimensionné, prêt à sonder ce vaste champ d'hydrocarbures prénommé Maria Colomba, il clama qu'il allait dans la minute faire baisser considérablement le prix du baril. « Tu fais dans le forage rotatif ou dans la fracturation ?» se récria la donzelle qui, malgré son expérience et le nombre incalculable de cylindres qu'elle s'était pris dans le puits, n'était pas prête à une exploration aussi sauvage. Le gros, par gestes éloquents, s'employa à plaider les avantages de la lubrification et la qualité de ses enrobés bitumineux. Mais l'effroi de la donzelle grimpait au fur et à mesure qu'elle voyait s'approcher le Derrick. On crut que la transaction allait s'arrêter là, quand elle démontra qu'à défaut de forage, on pouvait tout aussi bien faire dans le pompage. Ça, c'est la deuxième version. C'est riche en images tout de même. Hein, c'est technique et riche. Quand et là, on va quitter les champs d'hydrocarbures. On va aller dans les champs tout court. Et c'est la troisième version, un peu plus...
On change de champ lexical.
On change de champ lexical également. Lorsque Beru fit émerger son plantoir géant de ses guenilles, j'assistais à la scène toujours renouvelée de l'effarement d'une femme découvrant brusquement que la période des semis était commencée et que les engins agricoles avaient fait des progrès stupéfiants. Malgré sa riche expérience du labourage, Maria Colomba sentit que la saison allait être exceptionnelle. Devant la monstruosité de l'engin, elle objecta malgré tout que côté fourrage, elle avait déjà son compte et que côté moissonneuse-batteuse, elle préférait les Massey Ferguson de petits modèles. Le gros, glissant son pouce dans le sillon humide, s'employa à la rassurer en plaidant les qualités de son soc et l'élasticité de sa bouche à poil. Cela ne fut pas pour apaiser les craintes de la donzelle qui n'avait jamais pensé que l'on puisse l'ensemencer avec un tronc d'arbre. C'est assez joli, non ? Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais on n'est pas de bois, hein, de toute façon.
Alors la fin, c'est « on crut que toute transaction allait s'arrêter là » lorsqu'à pleine bouche, la fille entreprit d'évoquer la vieille légende orale de la lubrification des coutres. Voilà, alors bon, apparemment...
À pleine bouche, la vieille légende orale.
Bouche, oui, oui. Bon, la thèse de l'ami Aymar Brakmil, elle fait 712 pages hein, sur l'écriture de Frédéric Dard. Bon, il semble que Frédéric Dard ait choisi d'opter pour une version encore plus soft que celle que je vous ai lue. Et je n'ai pas trouvé, c'est dommage. Mais bon, Frédéric Dard, c'est quand même Frédéric Dard. D'ailleurs, si vous n'avez jamais lu de San Antonio, eh ben, je vous recommande. C'est une très bonne lecture, très saine lecture.
Il n'a pas fait que ça, mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour ce personnage.
Mais bien sûr que non. Et puis, il n'a pas fait que ça. Tu fais bien de le dire aussi, parce qu'on connaît tout ce San Antonio, Berurier, Anneco, mais il n'a pas écrit que ça.
Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on pense que c'est de la littérature de gare, c'est écrit avec les pieds, etc. Parce qu'il n'y a pas de recherche stylistique très, très recherchée. Mais lui-même disait qu'il suait sang et eau pour y peser chaque phrase pour faire rire. Le travail de... Enfin, je me dis que Charlie Chaplin, quand il a fait ou Coluche, quand ils ont rédigé leurs sketchs, leurs scènes de cinéma, etc., ont dû suer sang et eau aussi pour faire rire et émouvoir pendant ces moments-là. Et donc, Frédéric Dard, ceux qui sous-estiment sa littérature, sa prose, parce qu'il y a un côté un petit peu canaille, parce qu'il y a un côté populo assumé, sont vraiment des couillons, parce qu'il y avait quand même chez cet homme-là une capacité de travail et une immense culture derrière,
tout à fait.
Qui était assez impressionnante.
Tout à fait. Alors, la dernière lettre que je vais... Là, il ne s'agissait pas de lettres, hein, il s'agissait vraiment d'écrits. Là, je vais vous lire une lettre de Paul Léoto. Alors, Paul Léoto, c'était un personnage très particulier. C'était un critique de théâtre qui critiquait d'ailleurs, hein, qui critiquait amèrement d'ailleurs. Il est connu pour on le voit souvent représenté avec ses chats, parce que c'est vrai qu'il a fini par vivre un peu comme un ermite. Il s'est retranché de la vie parisienne, des théâtres, de la vie mondaine aussi. Il a préféré la compagnie des animaux, les chats, les chiens. Il avait un nombre incalculable de chats, y compris ceux qui je crois qu'il avait plus de 300 chats. Entre ceux qui vivaient avec lui et ceux qu'il nourrissait dans la rue, c'est un personnage que moi...
Charismatique.
Très charismatique. ronchon. Très ronchon. Critique acerbe. Il aimait personne. C'était un enfant qui avait été abandonné par sa mère. Donc, je pense qu'il a dû traîner... Je ne suis pas psy, hein, mais il a dû traîner ça longtemps. Il a connu une période où il était très dandy, avec... des tenues vestimentaires très élaborées qu'il portait, par exemple, il portait